britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Vous pouvez martyriser notre peuple, mais quoi que vous puissiez faire, nous nous relèverons un jour.
Oh, tu te nourris de songes morts, tu vis encore dans les croyances d'autrefois. La gloire de Salomon est éteinte, crois-tu qu'elle renaîtra? Il n'y a plus de Josué pour vous sauver, ni de David. Il n'y a qu'une seule réalité dans le monde d'aujourd'hui. Tourne les yeux vers l'ouest.
Ne sois pas stupide, regarde vers moi. Sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Israël assiégé, Israël conquérant. Ce va-et-vient contemporain où la réalité se mêle intimement avec la propagande et avec les fantasmes au cœur d'une terre déchirée appelle une comparaison et peut-être un rapprochement avec les heurts et les malheurs du peuple juif voici deux millénaires dans ce même décor. Les dominations étrangères, des Assyriens jusqu'à Rome, se sont exercées fort inégalement sur les Juifs. Le christianisme a donné une notoriété spécifique à la figure de Pontius Pilatus, de Ponce Pilate, mais ce ne fut que l'un des multiples fonctionnaires délégués sur place. Grecs et Romains, aux dieux multiples, ont éprouvé quelque peine à comprendre un peuple monothéiste et à s'accommoder de son particularisme, à tolérer sa certitude d'être radicalement différent. Mais les Juifs eux-mêmes ne furent pas insensibles, loin de là, à ce qu'apportaient les maîtres du moment, d'où naquit l'alternance de périodes où les puissances dominantes parvinrent à négocier et à entretenir un équilibre entre leurs intérêts et la spécificité juive, et d'autres moments où elles virent surgir des révoltes qu'elles écrasèrent dans le sang et qui demeurent encore de nos jours des références plus ou moins mythifiées pour le patriotisme d'Israël. Maurice Sartre, que j'ai souvent invité à ce micro, Maurice Sartre, professeur à l'Université de Tours et membre de l'Institut universitaire de France, est un savant spécialiste de l'histoire du Levant dans l'Antiquité. Il va donc nous guider dans un monde où se mêlent à nos yeux bien des étrangetés lointaines et bien des affrontements nationaux, religieux et militaires auxquels les drames contemporains donnent une actualité souvent surprenante. Et en ouverture, voici des propos tenus par le Premier ministre David Ben-Gourion, en visite officielle à Paris le 17 juin 1960. Il est présenté par Robert de Saint-Jean, président de l'Association de la presse diplomatique.
Le grand livre constitue lui aussi un prodigieux commentaire de l'actualité. Tout y est. La montée et la chute soudaine des empires, les victoires sans lendemain, le fracas des armées, les dictateurs qui font trembler la terre et qui passent comme une ombre, l'exode, la partition et jusqu'aux personnes déplacées. Eh bien, je crois qu'il n'était pas inutile, justement, peut-être, d'évoquer ce décor d'une antiquité grandiose qui se profile derrière les faits et les gestes de votre jeune État. En ce qui nous concerne, notre existence n'est pas fonction de l'acceptation ou de la reconnaissance de qui que ce soit. Nous existons depuis 4000
ans.
Nous nous sommes maintenus même lorsqu'un certain nombre d'autres souhaitaient notre disparition et ces derniers temps, on s'est employé à faire disparaître 6 millions de nos frères.
Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Ben-Gourion, c'est le fondateur d'Israël en mai 1948. On est 12 ans plus tard et ce qu'il dit suscite l'attention.
Ben, ce qu'il dit, comme d'ailleurs celui qu'il reçoit, nous plonge dès le début en plein mythe.
C'était bien mon espoir.
C'est-à-dire que Ben Gourion affirme deux choses qui sont extrêmement intéressantes. D'une part, notre existence comme État n'est pas liée à la reconnaissance internationale. Nous sommes là, en quelque sorte, de droit. Implicitement, il rappelle tout simplement le don de Yahvé d'une terre promise depuis longtemps. Et donc, c'est ça qui fonde la justification à l'existence d'Israël. Et puis, deuxièmement, il affirme, sans aucune nuance, nous sommes là depuis 4000 ans. C'est-à-dire, si je compte bien, un peu avant 2000 avant Jésus-Christ, puisqu'il s'exprime là en 1960.
Donc vous rend déjà la dialectique entre la terre, la nation et l'État qui va parcourir l'ensemble de notre
nation. Absolument. Et Dieu. Il faut quand même pas l'oublier, parce que c'est quand même Dieu qui est aussi la clé de tout le dispositif. Évidemment, l'historien est un petit peu gêné par de telles affirmations, parce que la présence d'Israël, des Juifs, enfin, quel que soit le terme qu'on donne, ou des Hébreux, en 2000 avant Jésus-Christ, et tout sauf absolument avéré, qu'il y ait des populations en Palestine à cette époque-là, on en est bien d'accord. Qu'ils soient des Hébreux, c'est déjà plus difficile. Qu'ils soient Juifs, ça, c'est même tout à fait faux. Donc, on est là dans le mythe, c'est-à-dire une répétition affirmée de quelque chose qui va de soi. En définitive.
Une idée, même éventuellement fausse, devient à son tour moteur de l'histoire. De toute façon, nous y sommes accoutumés.
Oui, bien entendu. Et de toute façon, les mythes, tous les peuples ont leur mythe fondateur. Le peuple français, c'est les Gaulois, c'est Vercingétorix, c'est ce qu'on voudra. Toutes les nations modernes ont comme ça des mythes fondateurs. Dans le cas d'Israël, puisque on parle de l'État d'Israël, eh bien, c'est ce mythe biblique et ce don de la terre par Dieu et la présence. Ce qui est intéressant, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir, c'est la présence continue au même endroit depuis 4000 ans. Et là, alors, on est réellement aussi en plein mythe et, j'allais dire, tout à fait en marge de l'histoire, car l'histoire, évidemment, ne confirme absolument pas une telle affirmation.
Alors, nous allons regarder tout cela de plus près. Auparavant, j'aimerais que vous nous disiez un mot de ces trois vocables qu'on rencontre, hébreu, israélite, juif.
Alors, le plus simple, c'est hébreu. Hébreu, c'est le peuple... fondateur, en quelque sorte, de ce qui devient ensuite la nation juive, c'est le terme qu'on réserve plutôt à la période d'avant l'exil. C'est le nom du peuple choisi par Yahvé et qui vit au Levant, donc en gros en Palestine ou sur l'espace d'Israël d'aujourd'hui. Donc c'est le terme qu'on emploie jusqu'à la conquête par les Assyriens, surtout par Babylone. On réserve le mot juif, en revanche, à l'aspect plutôt religieux.
C'est-à-dire jusqu'au VIe siècle.
Voilà, jusqu'au VIe siècle. À partir du VIe siècle et du retour d'exil, de la fin du VIe siècle, là on emploie plutôt le mot juif parce que on met l'accent sur l'aspect religieux. Mais en réalité, les textes antiques, et notamment les textes gréco-romains, n'emploient jamais le mot juif, parce qu'ils emploient le terme judaios, c'est-à-dire judéen, habitant de la Judée. Ils insistent peu sur l'aspect religieux, mais sur l'aspect, j'allais dire, local, ethnique.
Judaeus en romain.
Voilà, enfin, exactement, en exactement. Et puis, alors, le troisième terme, israélite, ça c'est un terme beaucoup plus moderne, et qui a été utilisé à partir, je crois, surtout du 19e siècle, peut-être déjà dès le 18e, mais pour désigner les juifs sans avoir à employer le mot juif. À la rigueur, on pourrait l'employer pour l'Antiquité, pour les gens qui relèvent du royaume d'Israël, c'est-à-dire l'un des deux États peuplés par les Hébreux avant la conquête, cet État qui a été conquis par les Assyriens en 722.
On remonte à 1760, nous dit-on, un clan conduit par Abraham jusqu'à Canaan.
Oui, on monte. Alors là aussi, je suis pas spécialiste de ces très hautes époques, donc je serai pas très précis et pas très, je développerai pas beaucoup. Mais
on peut être précis.
C'est vrai qu'on remonte. Si précis, je tâcherai de l'être. Bon, l'un des mythes fondateurs, c'est une grande migration depuis la Mésopotamie, la basse Mésopotamie, Ur en Chaldée, une ancienne ville sumérienne, jusqu'en Judée, en faisant le tour, en quelque sorte, du croissant fertile. Évidemment, l'archéologie est tout à fait incapable de prouver quoi que ce soit dans ce domaine. Et aujourd'hui, on le sait bien, même des faits qui paraissaient établis ou acceptés par la majorité des historiens sont très sérieusement remis en cause. Par exemple, l'historicité de Salomon. Et on sait bien que ces dernières années, un débat très vif s'est fait jour entre les archéologues israéliens.
Ah là, on est déjà 7 siècles après,
là,
après
je
Abraham.
Me place 7 siècles après Abraham.
On est au tournant du
deuxième et du premier millénaire. Et là, donc, un débat très vif oppose les archéologues israéliens, ou pas seulement israéliens, mais en tout cas travaillant en Israël entre eux, entre ceux qui, en quelque sorte, suivent toujours la Bible comme un guide archéologique, c'est-à-dire s'efforcent de trouver la preuve de ce que la Bible dit vrai, et puis ceux qui, prenant leur distance avec la Bible, fouillent, trouvent des documents et les interprètent à la lumière des comparaisons qu'ils peuvent établir avec les trouvailles faites dans d'autres régions voisines du Proche-Orient.
Il s'agit de la monarchie supposée tempérée, Saül,
voilà, David, Salomon. Et aujourd'hui, un très fort courant veut que Salomon soit un véritable mythe. Donc, bon, je prendrai pas parti dans ce débat, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'archéologie aujourd'hui en Israël alimente le débat politique, car on se doute bien qu'il y a là derrière des préoccupations politiques, et on le voit bien même dans la politique d'annexion d'Israël. Par exemple, le Golan syrien occupé a été annexé officiellement à Israël parce que l'archéologie fournissait les traces, prétend-on, d'une occupation juive importante.
Au temps de David et de Salomon.
Pas remontant aussi haut, mais à l'époque hellénistique ou un peu plus tard.
Restons un instant sur cette monarchie de David, Salomon, qui s'installe à Hébron, puis très vite à Jérusalem. Et alors, je peux pas me priver du plaisir de vous faire entendre un petit morceau de péplum.
Bien sûr.
C'est-à-dire un extrait de Salomon et la reine de Saba. Nous sommes en 1959, je parle du film, et nous allons entendre David sur son lit de mort.
Long règne Salomon, par la grâce de Dieu, roi souverain d'Israël.
Long règne Salomon, par la grâce de Dieu, roi souverain d'Israël.
Un fardeau oppresse encore mon cœur. Dans ma jeunesse, je rêvais de faire bâtir un puissant temple qui eût servi d'écrin à l'Arche d'Alliance. Mais la conscience trop lourde, je n'ai pu entreprendre d'ériger l'habitation de mon Dieu. Exauce mon vœu, mon fils. Promets de faire bâtir le grand temple dont j'ai toujours rêvé, afin que Dieu puisse désormais résider parmi son peuple.
Je vous promets de le faire bâtir.
Sois fort et du courage, mais point de crainte et non plus de mépris.
Alors Maurice Sartre, vous retrouvez vos personnages?
Oui, on retrouve évidemment les personnages des mythes fondateurs, et notamment avec David, fondateur de la royauté, Salomon, fondateur du temple, de ce temple qui a été détruit au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, donc en 500, d'abord une première fois en 597, puis en 587, qui est resté comme le temple parfait, en quelque sorte, ce premier temple qu'on a très largement mythifié, alors qu'il est vraisemblable, et que l'archéologie le prouve, que le second temple, celui qui a été construit beaucoup plus tard et achevé par Hérode, était nettement plus grand, nettement plus beau, sans doute, même s'il a été relativement éphémère, on aura peut-être l'occasion de le dire.
Donc le premier temple, chétif.
Chétif pour une raison, relativement chétif pour une raison très simple, c'est que à l'époque supposée du règne de Salomon, d'une part les Juifs ne sont pas encore monothéistes, ou les Hébreux ne sont pas monothéistes de façon très claire, l'affirmation d'un lieu de culte unique n'est pas encore faite, elle ne se trouve que deux siècles, trois siècles même plus tard, et donc il est vraisemblable qu'il y a à ce moment-là chez les Hébreux des lieux de culte multiples et non pas un seul lieu de culte. Donc là on a une projection ou une rétro-projection en quelque sorte à la fois du monothéisme et de l'unicité du lieu de culte projeté sur trois siècles avant. Donc on a une sorte de vision immuable d'un judaïsme qui serait éternel et qui aurait été toujours le même. Ce qui est évidemment faux aux yeux aussi bien des exégètes, des théologiens que des historiens.
Quoi qu'il en soit, la Réalité ou mythe, ce premier apogée connaît vite sa fin.
Oui, alors connaît vite sa fin. Enfin, la période royale, elle existe, on la connaît, même si encore une fois le problème de Salomon est loin d'être réglé. Les deux royaumes, parce que l'état de Salomon, gardons-le, se divise en deux royaumes, et ces deux royaumes sont conquis successivement. Le premier, donc Israël, par les Assyriens,
Israël
le
au nord,
par les Babyloniens.
Israël au nord, Juda au sud.
Et Juda au sud. Et une partie du peuple juif, je dis bien une partie seulement, est emmenée en exil en Babylonie. Et ils reviennent d'exil simplement à la fin du VIe siècle. Et là, alors, on peut parler de judaïsme parce que, d'une part, le monothéisme s'est clairement affirmé, ça c'est certain.
En exil.
En exil. Et surtout, dans l'exil, la communauté exilée a dû en quelque sorte renforcer ses défenses. Ils se sont trouvés noyés au milieu de gens qui pratiquaient les polythéismes en vigueur en Mésopotamie. Et donc, en quelque sorte, le monothéisme et le respect surtout de la loi, ce qu'on appelle la Torah, sont devenus en quelque sorte le signe distinctif et le meilleur garant de la survie de la communauté et de son originalité. Et c'est à partir de l'exil et plus encore du retour d'exil que désormais être juif, c'est pas tant appartenir à un peuple choisi à une période donnée que celui qui respecte la Torah. On ne peut pas être juif si on ne respecte pas la Torah.
Cette définition s'est affirmée aux yeux des juifs eux-mêmes dans la première diaspora, si on laisse de côté l'Égypte.
On peut parler d'une sorte de première diaspora en Mésopotamie, et elle s'applique alors tout d'un coup aux juifs restés en Palestine, parce qu'il y en avait beaucoup. On n'avait emmené que les chefs du peuple. Et lorsqu'ils reviennent, ils s'aperçoivent que les juifs restés là, laissés, j'allais dire, un peu à l'abandon, se sont mêlés aux autres, ont repris l'habitude d'épouser des femmes non-juives ou des hommes non-juifs, ont repris l'habitude de vénérer d'autres dieux que Yahvé, et donc il y a un retour en force de la Torah et du respect de la Torah. C'est à ce moment-là qu'on institue le sabbat, par exemple, la pratique du sabbat, l'interdiction des mariages avec des non-juifs, etc.
Est-ce que vous voyez là un écho possible du côté du tournant de notre 19e et 20e siècle, au moment où les juifs reviennent déjà en nombre sous l'impulsion de Herzl et du sionisme sur la terre d'Israël?
Non, je crois pas qu'on puisse faire vraiment de parallèle, parce que les situations sont complètement différentes. Pour ce qui est du retour de Mésopotamie, ce qu'il ne faut pas oublier, là aussi, même si c'est contradictoire avec les mythes de l'exil, c'est que ceux qui avaient été exilés en Mésopotamie ne voulaient pas revenir en Judée. Et c'est le roi perse qui les a obligés à revenir. Et il a organisé lui-même des convois pour qu'ils reviennent, mais beaucoup de juifs sont restés en Babylonie parce qu'ils y avaient fait leur vie, ils y avaient trouvé une aisance que n'offraient pas les maigres collines de Judée. Finalement, ils s'y trouvaient pas mal.
Mais l'alia dans notre contemporanéité n'a concerné aussi qu'une minorité.
Une minorité, c'est vrai. Mais là, c'est une entreprise, j'allais dire, d'État, puisque c'est le roi qui, à deux reprises au moins, organise des convois, même je devrais dire à trois reprises, organise des convois de juifs pour leur dire, écoutez, retournez chez vous.
Une contre-déportation après 50 ans.
C'est une sorte de contre-déportation. Alors que les juifs avaient été effectivement déportés, le mot est juste, comme beaucoup d'autres peuples, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. On en a des tas d'autres exemples. Eh bien là, c'est une contre-déportation. Le roi veut vider la Mésopotamie de ses populations halogènes et il les renvoie chez elles, parmi eux, les juifs. Et ils n'ont pas été les seuls à en bénéficier.
Ce qui n'empêche pas que les Perses continuent d'avoir sur cette terre pendant longtemps et de continuer à dominer.
La période perse a été une période, une des périodes les plus obscures au Proche-Orient actuellement, enfin pour le Levant, la Syrie en proprement parler. C'est une période qui est mal documentée, mais ça paraît être une période de lente reconstruction de la communauté juive de Judée, qui est une toute petite communauté, qui ne dépasse guère Jérusalem et ses environs, enfin la Judée au sens le plus étroit. Au moment de la conquête d'Alexandre, les Juifs sont peu nombreux et vraiment concentrés autour de Jérusalem.
332, Alexandre
332,
conquiert.
Oui, la conquête de la Syrie. Malgré là aussi des légendes, Alexandre n'est jamais venu à Jérusalem, même s'il y a un récit qu'il fait venir à Jérusalem, mais il est complètement mythique et bourré d'anachronismes qui sont assez intéressants et amusants.
Quel récit date de quelle
époque ? Alors c'est un récit qui date probablement qui a été modifié à plusieurs reprises parce que il visait en fait plusieurs buts. D'une part, à justifier la rupture avec les Samaritains et à montrer qu'Alexandre avait vénéré le temple de Jérusalem et le grand prêtre, alors qu'au contraire, il avait combattu les Samaritains.
Rappelez-nous.
Alors les Samaritains, c'est aussi des Juifs qui vivent un peu au nord de Jérusalem, mais qui n'ont pas voulu reconnaître justement l'unicité du lieu de culte et qu'ont leur propre temple. Et d'autre part, qui n'acceptent pour les Écritures saintes que les 5 livres du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible d'aujourd'hui. Pour faire court. Et donc, c'est un élément de la polémique, cette visite d'Alexandre à Jérusalem. Et d'autre part, c'était aussi un moyen de montrer aux maîtres successifs, que ce soit Antiochos IV, dont on va sûrement reparler, ou les Romains plus tard, que Alexandre, lui, le grand Alexandre, s'était prosterné aux prières du grand prêtre et avait offert des sacrifices à Yahvé dans le temple de Jérusalem. C'était une manière de leur dire, prenez modèle.
Alors, nous continuons cette histoire, bien sûr, après Alexandre et son bref et génial règne, nous arrivons au temps des diadoques, c'est-à-dire que ces généraux se partagent l'Empire.
Et la Judée va tomber pendant plus d'un siècle sous la domination des Lagides, c'est-à-dire des rois grecs d'Égypte, puis vers 200, sous la tutelle des Séleucides, c'est-à-dire aussi des rois grecs, ou macédoniens, si vous voulez, d'Antioche. Et pendant, on peut dire, un siècle et demi, entre la mort d'Alexandre et 175, tout se passe, mon Dieu, plutôt bien. C'est-à-dire que la Judée prospère, la population s'accroît très fortement, et on le voit parce qu'il commence à y avoir un fort mouvement d'émigration vers le nord ou vers les régions voisines. On trouve des Juifs beaucoup à Alexandrie, à Antioche, mais on en trouve aussi en Asie mineure. Et puis on en trouve également qui vont en direction de la Galilée, qui franchissent le Jourdain, qui s'installent un petit peu partout.
L'hellénisation marquée et, aussi.
Alors l'hellénisation, je dirais que c'est difficile de la déceler, mais elle se fait sûrement. Et on va voir pourquoi. Elle se fait sûrement et sans que personne n'y trouve beaucoup à redire. Oh, il y a bien quelques mises en garde dans certains traités comme l'Ecclésiastique où on dit, vous savez, c'est peut-être pas la peine, on le dit pas aussi clairement, mais les historiens et les exégètes sont d'accord là-dessus. On dit aux Juifs, faites attention, on n'a peut-être pas besoin d'étudier la philosophie grecque, tout est dans la Torah. Toute vérité vient de Yahvé, toute science, toute sagesse vient de Yahvé, c'est pas la peine d'étudier la philosophie grecque. Mais tout ceci est feutré parce que l'hellénisme ne paraît en rien menacer l'identité juive.
Le polythéisme grec, finalement, apparaît comme tolérant pour le monothéisme.
Absolument. De toute façon, les Grecs, le mot tolérant, c'est un mot qui n'existe pas en grec pour une raison simple, parce que le mot intolérance n'existe pas non plus. Donc, ça va de soi que chaque peuple a ses dieux.
Cette absence de vocable est finalement heureuse.
D'une certaine manière un peu heureuse. Et bien entendu, les Grecs n'ont jamais cherché à imposer ni leur culture, ni leur dieu à qui que ce soit. Pas plus Antiochos IV, on le verra, que les autres rois grecs. Et donc, les Juifs adoptent un certain nombre d'habitudes grecques. Beaucoup de Juifs prennent des noms grecs. Beaucoup d'autres, tout moins chez les notables, apprennent le grec, s'expriment en grec, et on voit toute une littérature s'écrire même en grec. C'est la langue des vainqueurs, des maîtres, mais on n'est pas dans une société où on oppose dominant et dominé. Les Grecs admettent très bien que les élites des peuples conquis deviennent des Grecs à leur tour. On peut devenir grec par la culture et pas simplement de naissance. Et ça, c'est une idée, je crois, tout à fait fondamentale. En tout cas, l'hellénisation avance tellement bien qu'en 175, le grand prêtre, qui a pris comme nom quand même celui de Jason, on ne peut pas faire beaucoup mieux en matière de nom grec, demande au roi l'autorisation de transformer Jérusalem en cité grecque. Et ça marche bien. Il a derrière lui une partie du peuple juif, et notamment les prêtres, puisque un de ses plus farouches adversaires nous fait savoir qu'il y a un gymnase au pied du temple, pratiquement, et que les prêtres vont courir au gymnase, ce qui scandalise évidemment un certain nombre de juifs pieux, mais il faut bien comprendre que l'initiative de l'hellénisation de Jérusalem, ce n'est pas une initiative royale, le roi se contentant de donner l'autorisation aux juifs qui ont demandé à s'héléniser.
Donc il y a beaucoup de juifs qui finalement acceptent de s'héléniser au point probablement de disparaître d'ailleurs.
Non, je ne crois pas qu'on puisse... Alors bien sûr, comme nous on connaît la suite de l'histoire. On sait qu'il y a effectivement des juifs qui sont prêts à renoncer au judaïsme. Donc on se dit, et ça a été bien sûr le discours des livres des Maccabées, par exemple, c'est de dire, ces gens-là voulaient la mort du judaïsme. Parce qu'effectivement, le judaïsme s'est trouvé menacé après coup. Mais au départ, je pense que lorsque Jason lance sa réforme, il pense qu'il procède tout simplement à une modernisation de la société juive, à une mise au goût du jour.
Sans risquer de perdre sa spécificité.
Il pense que l'on peut être juif et grec à la fois, c'est-à-dire rester juif, vénérer Yahvé, offrir des sacrifices au temple, mais en même temps s'habiller comme un grec, pratiquer le sport comme un grec. Et on en a de bons exemples, parce que même son adversaire le plus acharné, qui est l'auteur du deuxième livre des Maccabées, est obligé de reconnaître que lorsqu'une délégation de juifs hellénisés va à Tyr assister à des concours en l'honneur du dieu Héraclès, eh bien, ils n'utilisent pas l'argent qu'on leur a donné pour offrir des sacrifices à Héraclès, ce qui aurait été une pure impiété, mais pour acheter des équipements pour des bateaux. Ce qui est une utilisation utilitaire, en quelque sorte, de ces crédits.
En effet.
Donc, on voit bien qu'il y a toute une partie des élites juives qui pensent qu'on peut très bien s'insérer dans le monde moderne. Parce que c'est ça, la réalité. La civilisation grecque, c'est la civilisation moderne, c'est la civilisation des élites du temps. Qu'on peut donc s'insérer dans la civilisation grecque tout en gardant son identité juive. Ça a provoqué une sorte de radicalisation, évidemment, des juifs pieux, qui, voyant les prêtres courir nus au gymnase, n'ont pas compris que l'on pouvait se conduire comme un grec en restant juif, et qui ont dit, mais nos prêtres sont devenus impies. Qu'est-ce qui les distingue d'un grec?
Et ça, c'est la réaction.
Ça a été la réaction immédiate, d'où une certaine agitation, mais qu'on le comprenne bien, une agitation des juifs pieux, et notamment du petit peuple de Jérusalem, face à une modernisation qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est cette agitation qui a suscité d'abord la fuite. Beaucoup de gens sont partis parce qu'il y a eu répression, évidemment. Dans tout État, lorsqu'il y a agitation, il y a répression de la part de l'État. Le roi, à ce moment-là, qui était Antiochos IV, s'est inquiété en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces Juifs sont-ils agités? Et on lui a répondu, très probablement, mais ils se battent entre eux au sujet de la loi, à propos de la Torah. Il y en a qui font preuve, c'est les termes, je reprends les termes de deux Maccabées, de zèle pour la Torah, et d'autres qui font preuve de zèle contre la Torah. Et Antiochos IV a dit, ben, s'ils se battent à propos de la Torah, il y a un bon moyen de supprimer le problème, supprimons la Torah. Et c'est supprimer la Torah, ça veut dire persécuter, ou du moins interdire la pratique du judaïsme, c'est l'édit de persécution 268. Mais vous voyez que l'enchaînement n'est pas celui que l'on croit d'habitude, c'est-à-dire qu'on imagine un Antiochos IV qui souhaite absolument helléniser les Juifs et décider à gommer en quelque sorte, à faire fondre les Juifs dans l'ensemble des peuples de l'Empire. En réalité, c'est pas du tout le problème.
Mais pour lui, c'est une révolte.
C'est une révolte comme une autre. Oui. Supprimons la cause de la révolte et on supprimera la révolte. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ça ne faisait que l'aggraver. C'est-à-dire qu'il a une réponse politique à un phénomène qui est beaucoup plus que politique, puisqu'il est à la fois sociologique et religieux. Et ce que Antiochos IV ne pouvait pas comprendre, et ne pouvait pas savoir, c'est que supprimer la Torah, c'était pas simplement supprimer une valeur religieuse ou une institution religieuse des Juifs, mais c'était supprimer tout le fondement de leur vie quotidienne. Et que ça, c'était impossible.
À telle enseigne que ça a contribué à provoquer une renaissance du particularisme juif après une période où
exactement,
on avait l'impression qu'il s'était en train un peu de se dissoudre.
Avec, bien entendu, donc une révolte extrêmement violente, celle qu'on appelle la révolte des Maccabées.
D'où vient l'expression Maccabée?
Ben parce que c'est le nom, c'est un surnom de Judas, mais honnêtement, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire.
Eh bien, je vais vous faire écouter un texte issu de la Bible, l'Ancien Testament. C'est un disque qui remonte à 1955, d'après les textes de la Bible de Marès Dzous, et qui est interprété par différents sociétaires de la comédie française. Vous allez voir comment le roi Judas, le Maccabée, pour résister à la domination des Grecs, va demander de l'aide à Rome.
Judas reprend les armes et bat Nicanor, qui meurt au cours de la bataille. Pendant ce temps, la puissance de Rome augmente. Les Romains viennent d'écraser les Grecs et les Gaulois. Antiochus le Grand, roi d'Asie, a dû payer un lourd tribut. Judas Maccabée envoie donc un ambassadeur au Sénat romain.
Judas Maccabée, ses frères et tout le peuple d'Israël m'ont envoyé vers vous pour conclure alliance et paix, et pour que vous nous comptiez parmi vos amis et alliés.
Voyant cela, Démétrius lève une armée de 120 000 hommes et 2 000 cavaliers, et se jette sur Israël. Judas établit son camp à Elaza, et 3 000 hommes d'élite sont avec lui. Cependant, devant le nombre considérable de leurs adversaires, ils sont pris de panique. Beaucoup se retirent du camp. Il finit par ne plus y rester que 800 hommes. Judas meurt au cours du combat. Son armée est battue.
Maurice Sartre, alors.
Oui, alors, on a là un extrait tout à fait caractéristique, tiré probablement, enfin, c'est un résumé du premier livre des Maccabées, qui met bien en scène trois des acteurs, mais qu'en oublie un. Il met bien en scène trois acteurs. D'un côté, le roi grec Antiochos IV ou ses successeurs. Là, on est même déjà avec un de ses successeurs, parce qu'il est mort en 164. Et là, on est en 160, au moment de la mort de Judas Maccabée, chef des révoltés. D'autre part, les révoltés, donc, Judas Maccabée qui a pris la tête du peuple révolté, avec ses frères. Et puis le troisième acteur, c'est Rome, qui commence à pointer son nez, si on peut dire. Non pas que les Romains soient intéressés par ce qui se passe réellement, et ils ont aucun intérêt en Judée, sauf un, c'est affaiblir les Séleucides. Et donc, partout où il peut y avoir une révolte, ils soutiennent les révoltés contre les Séleucides. Ce qui manque évidemment dans l'affaire, dans le récit, c'est la présence des Juifs hellénisés, qui sont à l'origine même de la révolte. Mais il est vrai qu'à cette époque-là, on est dans une fin de guérilla, et alors c'est le deuxième aspect qui lui est bien rendu par ce que dit le récitant. D'un côté, une énorme armée, évidemment pas 120 000 hommes, probablement pas, mais disons des dizaines de milliers d'hommes qui ont l'habitude de se battre en rase campagne, et face à ça, des révoltés qui sont incapables d'affronter cette armée régulière en rase campagne et qui font de la guérilla. D'où le caractère extrêmement long de la guerre juive des Maccabées, qui va se prolonger bien après la mort de Judas Maccabée, c'est que de toute façon, d'un côté les Séleucides se battent en rase campagne, les autres font la guérilla dans des grottes et se cachent, et donc personne n'emporte jamais de victoire décisive.
C'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup d'autres
bien
cas
entendu,
dans l'histoire.
Bien entendu, mais il n'en reste pas moins que au moment de la mort de Judas, je dirais que la victoire est déjà acquise de toute façon pour les révoltés.
Pourquoi?
Parce que les chefs des hellénistes, ce qu'on appelle les hellénistes, c'est-à-dire les juifs hellénisés, ont été emprisonnés, voire exécutés. Jason a été lui-même s'est exilé parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a fait de la surenchère par rapport à lui, un certain Ménélas. Là aussi, le choix du nom grec n'est pas donc tout à fait innocent.
De la surenchère dans la grécophilie.
Dans la grécophilie, c'est-à-dire que Ménélas va beaucoup plus loin que Jason et lui alors n'hésite pas à abandonner carrément le judaïsme. Et Ménélas, lui, est exécuté. Parce que les rois séleucides ont très bien compris que si on voulait ramener la paix, il fallait traiter avec ceux qui étaient révoltés, pas ceux qui avaient suscité, en quelque sorte, par leur imprudence, la révolte. Et peu à peu, à partir de 160, mais surtout à partir de la fin des années 150, on voit apparaître un nouvel État juif en Palestine, en Judée. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet État juif nouveau ne se réclame pas du tout de la monarchie davidique ou de Salomon. Il n'y a pas du tout de référence.
Le mythe viendra plus tard.
Le mythe viendra plus tard, mais en même temps, il s'appuie aussi sur les Écritures pour mener, alors que l'État est à peine constitué, une politique de conquête. Et on voit très vite les Asmonéens, puisque c'est le nom qu'on leur donne, ce sont les frères de Judas qui vont se succéder pendant quelque temps, Jonathan, puis Simon, puis Jean Hyrcan. On voit très vite cet État à peine constitué se livrer à une guerre de conquête au sud, au nord, à l'est. À l'ouest, c'est la Méditerranée, mais aussi sur la côte, et gagner des villes de la côte, y compris dans des zones qui ne sont pas du tout peuplées par des Juifs. C'est le cas de la côte, c'est le cas du Negev actuel, l'Idumée, c'est le cas de la Transjordanie, du pays de Moab, qui ne sont pas du tout, du tout. Mais ils se fondent pour justifier cette conquête sur les récits des livres des rois, des livres, les récits historiques de l'époque de David et de Salomon. Et chose qui est très intéressante, sur laquelle les historiens, notamment les historiens israéliens, ont mis l'accent, c'est que au fur et à mesure de la conquête, il y a des peuples qu'ils obligent à se convertir au judaïsme, et il y en a d'autres à qui il refuse le droit de se convertir au judaïsme en fonction de ce qui est écrit dans le Deutéronome.
Est-ce que ça n'appelle pas des rapprochements avec certains comportements d'une certaine droite israélienne aujourd'hui ?
Bien entendu, bien entendu. D'une certaine manière, il y a là, en quelque sorte, la justification de la conquête par le don de Yahvé, par la tradition davidique, et par exemple, il se fonde sur un passage du Deutéronome qui dit par exemple que les enfants de Moab ou les enfants d'Ammon n'auront pas place dans la communauté du Seigneur. Donc cela, on fait la conquête, mais on leur interdit de devenir juifs. Tandis que les Iduméens, il est dit dans le Deutéronome, l'Iduméen est ton frère, ne l'oublie pas. Et là, on les oblige à se convertir. Et ceux qui veulent pas n'ont plus que le choix entre la mort ou l'exil. En fait, on voit comme ça, à ce moment-là, un certain nombre d'Iduméens, donc ces Arabes du Negev, s'exiler en Égypte. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on voit là se monter un nouvel État juif qui n'a pas vraiment, en dehors de cet aspect impérialiste, de rapport ou de référence au royaume de David et de Salomon, et qui adopte les structures d'un État grec. On se trouve donc dans la situation d'un État grec qui naît d'une révolte contre l'hellénisme et qui, en fait, devient lui-même un État hellénistique sur le modèle du royaume séleucide.
Sa constitution, enfin ses institutions,
ben, ces institutions ressemblent de plus en plus. Par exemple, on bat monnaie, on a monté une armée avec des mercenaires, et puis le chef de cet État, qui longtemps porte simplement le titre de grand prêtre, prend un jour le titre de roi. Ça sera avec le roi Aristobule, probablement en 104-103, et après lui, le roi Alexandre Jané.
Et ensuite, Hérode.
Alors Hérode, c'est une autre lignée. Hérode, lui, devient roi par la grâce de Rome, parce que cette famille des Asmonéens sombre dans les querelles intestines à un moment où les Romains mettent le pied en Syrie. En 63, Pompée annexe, 64 même, il annexe la Syrie à l'Empire de Rome. La Syrie, ça englobe évidemment ce tout petit peuple juif de Judée. Et comme les deux prétendants viennent se plaindre devant lui, il va voir sur place et il s'empare de Jérusalem et du Temple. Et il a bien essayé de trouver une solution pour administrer le pays, mais disons que tout à peu près a échoué. Et donc en 40, face au moment d'une invasion des Parthes dans la région, les Romains choisissent un autre roi. C'est Marc-Antoine et celui qui va devenir un peu plus tard Auguste, qui décide de nommer comme roi un certain Hérode qu'ils connaissent bien, qui est justement un descendant d'une famille iduméenne, c'est-à-dire de ces gens fraîchement convertis. Et Hérode est une sorte de semi-juif. D'abord, sa mère est arabe. Elle n'est pas juive du tout. C'est une arabe nabatéenne de Pétra.
Oui.
Et son père est un juif d'une famille juive convertie au temps d'Alexandre Jané, ou peut-être à l'époque, à la fin du IIe siècle. Donc, Hérode ne peut pas être grand prêtre, comme l'avaient été les Asmonéens. Mais il est roi. Et il est chargé de remettre de l'ordre. Et
donc les Romains décident à ce moment-là de maintenir le fait de la royauté.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que les Romains ont compris que, d'une certaine manière, ils ont compris le particularisme juif. Ils ont compris que d'envoyer des légions pour occuper le pays allait mobiliser des troupes énormes et provoquer des conflits sans fin.
Mais vous, une sorte
donc vaut mieux se reposer sur un roi client, qui est citoyen romain en plus, parce qu'on l'a fait citoyen romain, enfin son père a déjà été citoyen romain, il s'appelle Caius Julius Hérode, faut pas l'oublier. Bon. Et on préfère donc garder un juif, même s'il est plutôt mal vu par les juifs pieux, notamment par les pharisiens, et d'un autre côté, les juifs sont pas mécontents de garder une certaine autonomie qui leur évite d'avoir des fonctionnaires et des troupes romaines dans leur royaume, c'est-à-dire des occasions multiples de souillures rituel.
Là, ça n'est pas propre à la Judée, le comportement des Romains, puisque c'est une pratique que
ils appliquent à la Judée.
Avec les Mithridates, Cappadoce, la Bithynie.
C'est une pratique qu'ils ont largement développée, notamment Marc-Antoine a pratiqué ça partout au Proche-Orient. La Judée n'est qu'un État client parmi d'autres. Mais, dans le cas de la Judée, ça a un avantage spécifique, c'est d'éviter les conflits que l'on va voir surgir dès la disparition de cet État client. Parce que là, les Juifs pieux vont se trouver en contact direct avec les Romains, et on le voit dans les évangiles, le scandale que provoque Jésus lorsqu'il rentre dans la maison d'un Romain. Il se livre à quelque chose, enfin, c'est une souillure pour les juifs les plus rigoristes, ceux qui veulent l'application stricte de la Torah. Alors on passe en fait, si on regarde bien, pour résumer très vite, on passe de l'état de la soumission totale à l'époque l'agide, puis au début de l'époque c'est le cid, mais avec une grande marge d'autonomie. Le grand prêtre représente le peuple, il n'y a aucun fonctionnaire, ni l'agide, ni c'est le cid à Jérusalem. À un état né de la révolte contre les Grecs et qui prend la forme d'un état grec, puis un état client de Rome, puis, après la mort d'Hérode, mais surtout la mort, l'exil de son successeur Archélaos, à l'administration directe. Et là, les choses se passent évidemment très mal. D'abord parce que, depuis l'époque des Maccabées, est apparu un mouvement, un double mouvement. D'une part, donc, l'attente messianique, un messie va venir, et deuxièmement, la fin des temps est proche. La fin des temps est proche et l'arrivée du messie sera le signe annonçateur de cette fin des temps. Et ce double mouvement culmine au premier siècle avant et surtout au moment de Jésus, mais on sait que Jésus est de loin pas le seul messie. Flavius Joseph raconte des histoires, la Judée, j'allais dire, est pleine de messies, lui dit de brigands, de faux messies, etc. Mais pour nous historiens, ce sont tous des messies équivalents. Ils sont tous, évidemment, représentatifs.
Et parce que nous évitons le finalisme, ce vieil ennemi de l'histoire.
Évidemment.
Consiste à croire que la fin de l'histoire était déjà dessinée avant.
Oui. En réalité, l'administration directe par Rome va exacerber en plus cette attente messianique parce que la présence de fonctionnaires romains, la présence de troupes romaines conduit à ces souillures permanentes. Alors, on voit une fois, c'est un soldat qui souille un livre saint, une autre fois, c'est les juifs pieux qui soupçonnent l'armée d'être rentrée, ou même qui voient l'armée rentrer à Jérusalem avec des enseignes, et donc des animaux impurs, même si c'est que des images. Bref, il y a une exacerbation de l'intolérance, on peut le dire comme ça, à l'égard des païens.
Bien que le mot vous paraisse anachronique, néanmoins vous le reprenez à votre tour.
Non, parce que je l'emploie pas de façon anachronique, parce que les juifs, eux, sont intolérants à l'égard des autres. Et c'est ce que les autres leur reprochent et ne comprennent pas.
Il y a une tension à l'égard des romains qu'il n'y a pas eu à l'égard des grecs.
Qu'il n'y a pas eu à l'égard des grecs, c'est vrai.
Et qui s'explique par un comportement différent des romains?
Je crois à eux. Pas forcément un comportement différent, mais probablement une exacerbation de l'impatience de la fin des temps. Et donc, dans ce moment-là, on soupçonne l'autre, évidemment, de tous les crimes. Lorsqu'on soupçonne, par exemple, Hérode qui avait fait disposer sur le temple des armes, des armures vides, eh bien, il a été obligé, pour prouver sa bonne foi, qu'il n'y avait pas d'image vivante, d'être vivant caché derrière. Il a fallu décrocher toutes les armures, les armes, les épées, et ça n'a pas suffi, alors que on a vu qu'il y avait rien derrière, que le bois sur lequel était accroché, mais on l'avait accusé d'avoir caché des images d'êtres vivants derrière les armures.
Grand débat sur les images, effectivement.
Donc
qui durera
il y a,
longtemps.
On est dans une situation d'incompréhension qui ne permet plus, en quelque sorte, de faire la paix. D'où la grande révolte.
Et je vais vous faire entendre Second Péplum, un extrait d'un film très célèbre sous sa version parlée, Ben-Hur, 1959, William Wyler, l'opposition entre le juif qui veut collaborer, c'est un peu anachronique, vous allez voir, qui veut collaborer avec la domination romaine et celui au contraire, c'est Ben-Hur, qui s'y refuse. Écoutez.
Judas, je vais être le bras droit du nouveau procurateur, Valerius Gratus. Il arrivera d'ici peu de temps avec 2 légions de renforts.
Ainsi, les rumeurs étaient fondées.
Notre empereur n'est pas satisfait de tes compatriotes. Il y a une rébellion qui couve. Il va falloir l'écraser. Mais toi et ta famille, ne soyez pas inquiets. Après le gouverneur, c'est moi qui commande et tu es mon ami.
Je suis un juif.
Non, tu es presque un romain. Que peux-tu avoir de commun avec cette racaille en pleine effervescence?
Cette racaille? Il s'agit de mon peuple. Je suis juif comme eux.
Judas, réfléchis. Nous sommes dans un monde romain et pour y vivre, tu dois te soumettre et devenir romain. C'est le destin qui nous a choisis pour civiliser le monde, et nous l'avons fait. Nos routes et nos navires relient chaque coin de la terre. Nos lois romaines, nos arts romains, notre culture sont la gloire de l'humanité.
Et moi j'ai foi en la destinée du peuple juif.
C'est naturel. Tu peux l'aider, Judas.
Comment?
Tu es un aristocrate. On respecte ta famille et ton nom est illustre. Tu es un prince aimé du peuple. Tu es riche, tu es influent, ta réputation est sans tache, et le peuple t'écoutera si tu prends parti contre la rébellion. Judas, persuade le peuple que vouloir résister à Rome est stupide. Et c'est pire que stupide, c'est inutile.
Parce que ça ne finira que d'une seule façon, l'anéantissement de ton peuple.
Vous pouvez occuper notre terre. Vous pouvez martyriser notre peuple. Mais quoi que vous puissiez faire, nous nous relèverons un jour.
Oh, tu te nourris de songes morts, tu vis encore dans les croyances d'autrefois. La gloire de Salomon est éteinte, crois-tu qu'elle renaîtra? Il n'y a plus de Josué pour vous sauver, ni de David. Il n'y a qu'une seule réalité dans le monde d'aujourd'hui. Tourne les yeux vers l'ouest. Ne sois pas stupide, regarde vers Rome.
J'aime mieux être stupide que d'être un traître ou un assassin.
Je suis un soldat.
Oui, un soldat qui tue pour Rome. Et Rome est le mal.
Je t'avertis.
Non, c'est moi qui t'avertis. Rome est une offense à Dieu. Rome étrangle mon peuple, ma patrie, l'univers entier. Mais cela finira. Et je te le dis, lorsque Rome s'écroulera, de la terre retentira une immense clameur qui s'élèvera jusqu'aux cieux.
Alors Maurice Sartre, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'on est en 1959, c'est-à-dire 10 ans environ après la naissance d'Israël. On est en plein dans le mouvement de décolonisation.
Oui.
Et puis en même temps, il y a une réflexion sur occupation, accommodation éventuelle avec les occupants, ou au contraire résistance avec grande force symbolique et parfois concrète.
Alors les deux personnages, si je comprends bien, donc l'un est membre d'une grande famille et il est l'ami d'un Romain, futur collaborateur du préfet qui va arriver, dont on annonce l'arrivée, Gratus. Donc on est là au tout début du règne de Tibère, en 15.
Gratus qui va
quelque
rester,
chose comme ça, qui va rester 10 ans,
avant
11 ans.
Avant Ponce Pilate.
Juste avant Ponce Pilate. D'un côté, il y a un élément qui est intéressant et qui est juste, c'est l'amitié possible, sinon l'amitié en tout cas, les contacts fréquents entre les grandes familles juives. Et il y a toute une partie de l'aristocratie juive, des chefs, disons, du peuple juif, qui s'accommodent de la présence des Romains parce que ça leur paraît être le seul rempart possible contre le brigandage, les mouvements révolutionnaires, les mouvements messianiques intempestifs, disons, l'agitation permanente. De l'autre, les Romains, évidemment, ne comprennent pas cette agitation. Ils ne peuvent pas comprendre non plus les mouvements messianiques ou eschatologiques, c'est-à-dire ces mouvements qui annoncent la fin du monde à ce moment-là. Ce qui va finalement, mais presque un demi-siècle après l'épisode là qu'on vient de nous indiquer, provoquer la révolte, c'est le moment où les notables juifs vont basculer du côté du peuple en se rendant compte que décidément, il n'y a rien à tirer des Romains.
C'est ce qu'incarne Bénure.
C'est ce qu'incarne d'une certaine manière Bénure.
Puisque le Romain l'invite à participer à cette
première
catégorie alors qu'il va refuser.
Voilà, et les Romains sans doute n'ont pas compris qu'une partie des élites juives étaient prêts à accepter leur domination à condition qu'ils maintiennent l'ordre, mais en même temps en respectant l'identité juive. Et donc les différents incidents qui vont se produire avec l'arrivée des légions dans Jérusalem, et l'affaire des enseignes, et puis les pillages successifs du temple, c'est-à-dire qu'on puise dans le trésor du temple un petit peu trop librement, à un certain moment, les élites juives ne vont plus servir de tampon, je ne sais pas s'il faut dire tampon ou fusible, en quelque sorte, entre le peuple qui est constamment au bord de la révolte, et l'armée romaine, et les fonctionnaires romains chargés de maintenir l'ordre. Et à ce moment-là, la révolte éclate.
Et c'est là qu'on en vient à la fin d'Israël dans l'Antiquité, parce qu'en quelques décennies, ces révoltes, deux révoltes successives qui aboutissent à la disparition, en fait, de l'État.
Alors, disparition de l'État, en fait, il a disparu avec les successeurs d'Hérode, hein, d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'ensuite, jusqu'en 1948, il n'y a plus eu d'État juif à aucun moment.
Mais la révolte, la guerre des Juifs, et puis...
Alors la révolte, oui, mais la révolte, elle se produit déjà dans une province romaine. Elle se produit, c'est pas la révolte d'un État client. Donc on peut dire qu'avec la disparition d'Hérode et surtout de son fils Archélaos, on voit disparaître les derniers États juifs, en quelque sorte.
Alors un mot sur les dernières révoltes, précisément la guerre des Juifs.
Alors il y a la guerre des Juifs, avec
Flavius Joseph.
Voilà, qui est raconté par Flavius Joseph. Grande révolte qui éclate en 66, donc au moment où ces élites, comme je disais, bascule du côté des révoltés. Les élites tentent d'organiser la révolte, puis très vite se rendent compte que la révolte se double, on peut dire, d'une sorte de guerre civile entre différentes factions. Très vite, les élites se retrouvent du côté du camp romain. Flavius Joseph, qui avait par exemple mis en état de défense la Galilée, très vite s'aperçoit de l'inanité de la révolte et se retrouve dans le camp des Romains. Donc la révolte se réduit à partir de 68 parce que les Romains ont très vite reconquis l'ensemble de la Judée au siège de Jérusalem, qui s'achève dans l'été 70 par l'incendie du temple.
puis la prise du dernier bastion qui est Masada, encore là aussi un mythe fondateur d'une certaine manière pour Israël.
Commémoré encore.
En printemps 73 ou 74, il y a discussion là-dessus, mais enfin bon, peu importe, et qui est commémoré comme le symbole même de la résistance. Mais il faut bien voir que Jérusalem n'est pas tant tombée sous les coups des Romains que sous l'effet d'une guerre civile entre trois factions qui se déchirent sous les yeux des Romains, allant jusqu'à brûler les vivres accumulés à Jérusalem pour tenir le siège.
Ça, évidemment, la mémoire patriotique d'Israël aujourd'hui le rappelle moins.
Le rappelle moins, évidemment, que l'héroïsme des défenseurs de Masada.
À propos des mythes fondateurs ou des réalités concrètes, historiques, sur quoi le patriotisme d'Israël s'appuie encore aujourd'hui, je vais vous faire entendre un dernier extrait. C'est une interview de Golda Meir qui a été, comme vous le savez, dans les années 60 et 70, ministre des Affaires étrangères et premier ministre en Israël, notamment au moment de la guerre du Kippour. Elle s'exprime le 19 décembre 1977.
And I thought it was necessary that I...
Et tout à coup, j'ai pensé qu'avant de poursuivre, je devais en effet expliquer au président Kennedy pourquoi nous n'étions pas un peuple comme les autres.
I said that we are not different as far as governments are concerned. Every government that is decent wants to do the best for its people. And we do too. We are also not the only ones in the world where our country was occupied by foreign powers. Twice before, Israel, Jewish people, had this country of their own. They were sovereign.
Je lui ai dit
ceci. And twice we lost it.
Nous ne sommes pas le seul territoire au monde à avoir été occupé par des puissances étrangères. Là n'est pas la différence. À deux reprises, le peuple juif a été souverain en Israël et à deux reprises, il a perdu cette souveraineté. Bien d'autres peuples ont connu le poids terrible d'une occupation étrangère, mais ils n'ont pas été chassés de leur pays.
And then the usual thing was that there are underground movements and their people are organized. Sometimes it takes a long time.
La plupart du temps, la résistance est organisée, ça a pris parfois des années, puis l'étranger a été chassé à son tour et le peuple est redevenu souverain sur son propre sol. Pour nous, ça a été bien différent et bien pire.
Twice before in our history, when foreign powers took over our country, they drove the people out.
À deux reprises, au cours des siècles, nous avons été occupés, mais l'occupant ne s'est pas contenté de nous gouverner, il nous a bannis de notre patrie.
And our fear is that this time, if again our country is taken over by others, we again will be thrown out of this country.
Notre grande et ancestrale peur est d'être encore chassé d'Israël.
C'était Denis Jans qui prêtait, Denis Jans, sociétaire de la Comédie-Française, qui prêtait sa voix à la traduction des propos de Golda Meir. Je vous ai vu lever un sourcil à plusieurs reprises. Est-ce qu'on est là dans l'ordre des réalités ou dans l'ordre du mythe lorsque Golda Meir s'efforce de réfléchir à la spécificité des malheurs d'Israël?
Alors, je crois qu'on est beaucoup dans le domaine du mythe et l'imprécision même de son propos nous oblige à nous interroger sur ce qu'elle veut dire. Elle dit deux fois, nous avons été chassés. Non seulement donc on a été occupés, comme des tas d'autres peuples, mais on a été chassés. Alors, elle peut faire allusion évidemment aux deux exils successifs, d'une part celui d'Israël, puis celui de Juda, par les Assyriens à Ninive, puis par les Babyloniens à Babylone. Mais dans les deux cas, il y a eu déportation d'une partie de la population, et je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu, pour ce qui est en tout cas des gens de Juda, du royaume de Juda, les Perses, au bout d'un demi-siècle, les ont invités très fortement à revenir précisément en Judée, et c'est eux qui, en bonne partie, n'ont pas voulu revenir.
Elle ne peut pas penser aussi à la fuite en Égypte ?
Non, je ne pense pas du tout qu'elle fasse allusion à la fuite en Égypte, c'est-à-dire à une époque beaucoup plus haute, à l'époque de Moïse, enfin même avant Moïse, puisque Moïse c'est celui qui ramène d'Égypte, parce que là, c'est vraiment pas ils sont pas chassés, ils partent poussés par la nécessité. Je pense en revanche qu'elle fait allusion à autre chose. Elle fait allusion à la révolte de Bar Kochba,
C'est-à-dire
une révolte qui surgit en Judée entre 132 et 135, avec, c'est encore l'expression d'un mouvement messianique qui essaye de libérer Jérusalem sans y parvenir, et qui se termine, pour le contre lequel les Romains ont lutté avec d'atroces difficultés, ils y ont même perdu une légion, à tel point qu'ils n'ont même pas osé l'avouer, on l'a appris que beaucoup plus tard. Et ça s'est terminé sous le règne d'Adrien en 135, par l'écrasement des révoltés, 135 après Jésus-Christ bien entendu, par l'écrasement de la révolte et par une mesure d'interdiction faite aux Juifs de venir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une situation extraordinaire. Jérusalem était désormais la seule ville de l'Empire romain qui soit interdite aux Juifs. Quand elle parle de l'interdit et du fait d'être chassé de la terre, je vois pas très bien à quoi d'autre Golda Meir peut faire allusion. Parce qu'autrement, il n'y a, contrairement à ce qu'elle dit, et par la déportation à Babylone, jamais eu d'obligation faite aux Juifs de quitter Israël. Évidemment. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un mouvement continu d'émigration et volontaire des Juifs depuis le 8e siècle. Mais il faut attendre vraiment la révolte de Bar Kochba pour que là, il y ait une mesure d'interdiction de fréquenter Jérusalem et que la Judée soit à peu près vidée de ces Juifs, mais ils sont installés en Galilée en très grand nombre et en Syrie, par exemple.
Maurice Sarthe, merci de nous avoir aidé pendant une heure à jeter une lumière vive sur cette histoire d'Israël dans l'Antiquité, l'histoire de ses relations avec les puissances extérieures. Cela permet de réfléchir aussi aux réalités et aux mythes. Votre ouvrage majeur sur l'histoire du Levant antique, du 4e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, s'intitule « D'Alexandre à Zénobie », publié chez Fayard en 2001. Et puis je voudrais également recommander chaudement à nos auditeurs votre livre tout récent, celui-là, qui s'appelle « Histoire grecque », publié au Seuil, où, vous proposez ce qu'on appellerait en littérature des nouvelles, des séries d'histoires juxtaposées, de faits divers dont vous tirez tout le suc possible. Et notamment, plusieurs de ces récits spécifiques éclairent notre sujet d'aujourd'hui. Histoire grecque, Le Seuil 2006. Je voudrais enfin signaler ces jours-ci la parution du Dictionnaire archéologique de la Bible, un ouvrage collectif dirigé par Abraham Negev, Shimon Gibson et Jean-Jacques Klasner. C'est un ouvrage qui a été d'abord disponible en anglais, qu'il est maintenant en français, et qui est une excellente synthèse de l'archéologie et de l'histoire des civilisations concernées. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission pendant un mois sur le site internet de France Culture, et si vous le souhaitez, la télécharger sur votre balado diffuseur en particulier. Samedi prochain, apparemment nous serons plus futiles. Puisque vous allez voir, nous allons parler du lapin. Et oui, du lapin. Faut-il en manger ou pas? Je vous montrerai aussi l'actualité du sujet. Et nous parlerons de cette grande affaire avec Anthony Rollet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et de Meryl Moneghetti, et avec Patrick Molinier, Michel Mestre et pour les Archivina, Véronique Jolivet. Nous allons rejoindre Antoine Garapon pour le bien commun.
Chaque samedi, Frédéric Mitterrand vous convie à le rejoindre en direct et en public du Café de l'Industrie à Paris pour 2 heures d'une conversation libre et informelle avec son invité. Ce samedi 28 octobre, il reçoit l'helléniste Jacqueline de Romilly avec la présence d'Angélique Ionatos. Jacqueline de Romilly, Frédéric Mitterrand, en direct, en public du Café de l'Industrie. Vous êtes conviés, 17 rue Saint-Sabin, dans le 11e, ce samedi de 15h à 17h. Dimanche, sur France Culture, Cahiers de la guerre et autres textes de Marguerite Duras. Ces cahiers, réalisés dans les années 40, et le choix de textes qui les accompagnent, constituent la matrice de son œuvre à venir.
Le lendemain, la supérieure est venue. Voulez-vous donner vos fleurs à la Sainte Vierge ? J'ai dit, non. La sœur m'a regardée, elle avait 70 ans, elle était desséchée par l'exercice quotidien d'organisatrice de clinique, elle était terrible, elle avait un ventre que j'imaginais noir et sec, plein de racines desséchées, elle est revenue le lendemain. Voulez-vous communier ? J'ai dit, non.
Cahier de la guerre et autres textes, lu par Sophie Duez, dimanche 29 octobre, de 14 à 16
heures. 11 heures. Il est 11 heures, vous écoutez France Culture.
Les lois bioéthiques de 1994 ont entériné avec un certain réalisme la mise dans le commerce juridique, non pas du corps humain, mais de certains de ses produits, c'est-à-dire de certains de ses éléments détachés de celui-ci. Cela ne signifie pas que ces éléments humains puissent faire l'objet d'un échange marchand. La plupart d'entre eux, tels que les organes, le sang ou le sperme, ne peuvent être que donnés. Mais à qui sont-ils donnés ? Un bénéficiaire, répondra-t-on. Mais l'explosion des biotechnologies ont rendu la réponse infiniment plus complexe. Le plus souvent, ils sont exploités par des chercheurs et peuvent parfois donner lieu à des développements industriels très lucratifs. Est-il alors normal, juste, que les donneurs de tissus ou de ressources génétiques ne bénéficient pas de ces profits ? N'y a-t-il pas une contradiction insupportable entre la gratuité initiale du don d'une part et son exploitation commerciale de l'autre? Suffit-il de dénoncer la marchandisation du corps humain comme un slogan pour s'opposer à la construction d'une véritable économie politique du vivant dont le paradigme pourrait être, à mi-chemin entre le public et le privé, l'idée de bien commun? Et c'est pour répondre à ces questions que je reçois ce matin Florence Bellivier. Florence Bellivier est professeure de droit, elle enseigne le droit privé à l'université de Paris 10 Nanterre, et elle est l'auteur d'un ouvrage écrit conjointement avec Christine Noiville, d'un ouvrage intitulé « Contrats et vivants », contrats au pluriel, vivants au singulier, publié en mars dernier à la LGDJ, avec une introduction de Catherine Labrusse-Rioux. Et pour en discuter avec une juriste, donc, j'ai invité Frédéric Geny. Frédéric Geny qui a la particularité d'être économiste, professeur à l'ESSEC, mais d'être également conseiller à la Cour de cassation. Et donc à mi-chemin, en quelque sorte, entre le droit et l'économie. Et nous allons voir que cette question nous porte à ce lieu incertain entre les principes juridiques et l'approche économique. Principes juridiques, Florence Bellivier, comment pourriez-vous les résumer à nos auditeurs? Un corps humain qui n'est pas disponible, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas monnayer, mais dont auquel on doit consentir à la donation. Je ne sais pas exactement comment le dire juridiquement de ces éléments.
Alors oui, en effet, les choses sont compliquées, mais elles le sont un peu moins depuis 1994, comme vous le disiez dans votre introduction. Avant 1994, on n'avait pas de loi sur la question, et après 1994, le corps humain est entré dans le Code civil, dans les articles 16 et suivants du Code civil. Alors, avant 1994, il était revenu à la jurisprudence et à la doctrine d'établir un statut du corps humain. Et en gros, on avait tendance, la tendance était de dire que le corps humain était hors commerce. On s'appuyait pour cela sur un article, l'article 1128 du Code civil, qui ne parle pas du tout du corps humain du reste, mais qui dit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions. Cet article date toujours de 1804. Alors la notion de commerce est une très vieille notion qui remonte au droit romain et qui se réfère aux relations juridiques, aux relations d'affaires. Mais le commerce peut être, et c'est ça l'important, il peut être à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc quand on disait que le corps humain était hors commerce juridique, on voulait dire qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'aucune convention, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. Donc on avait eu des affaires assez fameuses, j'y reviendrai si on a le temps, l'affaire de la rose tatouée sur la fesse d'une jeune fille, etc. Bon, bref.
Oui, il était permis de tatouer, voilà, mais pas oui, permis voilà, de la retirer.
Voilà, de retirer la fesse, et donc c'était considéré comme une convention, et il y a un objet illicite, bon.
Son contrat de Shylock, voilà. De la Grande Venise.
Exactement. Après 1994, enfin les lois de 1994 ont eu pour but de réglementer la circulation des éléments et produits du corps humain. Il aurait donc été parfaitement contradictoire de dire que le corps humain était hors commerce. On ne pouvait pas à la fois dire qu'on allait mettre le corps humain dans la circulation juridique et en même temps dire qu'il était hors commerce. Donc la parade qu'a trouvé le législateur, et on ne pouvait pas non plus dire exactement qu'il était indisponible. La disponibilité, c'est pas très très loin de la commercialité, c'est-à-dire que le corps humain peut faire l'objet également de conventions. Donc du coup, ce que le législateur a fait, c'est qu'il a dit que le corps humain